À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre L'Aventure spirituelle, animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Régime chrétien, la vie spirituelle n'est pas une théorie, une idéologie. C'est pas une question de raisonnement, c'est pas un système. La vie spirituelle, c'est partir à la recherche d'un visage, partir à la rencontre d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Laissez-moi vous parler de Jésus-Christ. L'important de la vie spirituelle, c'est lui. C'est lui notre nourriture. C'est lui la source de notre vie. C'est lui la source de notre croissance. C'est lui qui est au fond de nos crises. C'est vers lui que va notre devenir. Un martien qui se présenterait sur notre planète serait surpris. Il s'interrogerait sûrement à voir tous les signes que Jésus-Christ a laissés dans notre milieu, dans les choses. Partout, il y a des croix. Même les jeunes portent des croix comme des colliers, des appareils pour bien paraître, même s'ils comprennent plus la signification de ce que ça peut être. Il y a des églises, il y a des œuvres d'art, les musées sont plein de tableaux faisant référence à Jésus-Christ, à sa vie. Il y a des films à chaque année qui reprennent la vie de Jésus-Christ. Vous en connaissez? Jésus de Nazareth, Jésus de Montréal. Il y a des pièces de théâtre qui reprennent aussi la vie de Jésus. Je pense à la pièce de Diego Fabri, Le procès à Jésus. On peut dire que Jésus est plus connu aujourd'hui qu'il ne l'était de son temps, de son vivant. On peut même dire que moi, je le connais plus que mon meilleur ami. C'est assez étrange. On m'a dit que dans les fichiers de la Bibliothèque nationale de Paris, après la mention « Dieu », c'est Jésus-Christ qui a le plus de fiches dans le fichier. On ne peut pas écrire la date sur une lettre sans se référer à Jésus-Christ, vous le savez. Le calcul des jours part de la naissance présumée de Jésus. On se réfère à lui même à notre insu, à cause des grandes fêtes qui sont publicisées, qui sont commercialisées. Je pense à Noël, je pense à Pâques. La question qui se pose, quel est le secret de la permanence et de l'actualité de cet homme nommé Jésus? Vous savez la réponse. Le secret de la vie de Jésus, de son actualité, de sa permanence, se trouve dans la résurrection. Quand on y pense, la résurrection de Jésus est l'événement le plus important de toute l'histoire humaine. Par sa résurrection, ce que l'on découvre, ce qui est affirmé, ce qui est présenté comme réalité, c'est une percée décisive que le Christ Jésus a opérée à travers la mort, jusque dans la vie où la mort n'a plus de pouvoir. Le Christ a fait éclater, pour ainsi dire, le mur qui bloquait notre avenir. Il a ouvert une brèche dans la mort. Il a ouvert une porte, comme dit le livre de l'Apocalypse, que plus personne ne va fermer. La mort est épuisée, elle est vaincue. On peut se moquer de la mort. Et Saint Paul le premier se moque de la mort. Ô mort, où est ta victoire? On peut faire des pieds de nez à la mort. Et beaucoup de nos ancêtres, dans la foi, devant la perspective de la mort, on peut rire de la mort, sachant qu'elle était vaincue, que la mort n'est plus un blocage, un obstacle. C'est devenu un passage pour le chrétien dans une autre vie. La résurrection, c'est vraiment le noyau atomique de notre foi chrétienne, de notre vie spirituelle chrétienne. Enlever la résurrection, tout croule. C'est Saint Paul qui le dit. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et notre prédication est vide. Nous sommes les plus malheureux des hommes et des femmes. Jean Laloux écrivait ceci, « Si le Christ n'est pas ressuscité, monté au ciel, comme on dit, c'est-à-dire éveillé au monde sans mort, à quoi bon vivre? À quoi bon aimer? Se battre pour la vérité, la justice? C'est la mort qui aura le dernier mot. Mais si le Christ est ressuscité, cela veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la bêtise, la violence et la décrépitude. Il n'est pas absurde d'aimer. Ça veut dire que l'amour est plus fort que la mort. Quand on parle de bonnes nouvelles, en régime chrétien, on parle de la résurrection. La bonne nouvelle de la résurrection, qui était comme le cri primal des premiers chrétiens, des premiers qui ont rencontré le Christ ressuscité, cette bonne nouvelle s'est répercutée, s'est propagée jusqu'à nous aujourd'hui. Et il y a beaucoup, beaucoup de retombées radioactives, si on peut employer l'expression, à partir du fait de la résurrection, de cette sorte d'éclatement de la résurrection qui fait une brèche dans le mur de la mort. Ce que nos ancêtres dans la foi, dès le début, ont soupçonné, ont découvert, ont compris, c'est que cet homme, Jésus, n'était pas un homme comme les autres. Et c'est toute la réalité de l'incarnation qui découle du fait de la résurrection. Jésus, c'est le Verbe de Dieu incarné qui porte en lui les forces même de Dieu pour vaincre la mort. La résurrection, pour ainsi dire, c'est l'incarnation qui porte ses fruits. C'est très facile de ressusciter, je peux vous donner la recette. Prenez du divin, mettez-les dans l'humain, laissez-les travailler. Comme une femme qui met du levain dans 3 mesures de pâte, pour faire et gonfler la pâte. La résurrection, c'est l'incarnation qui porte des fruits. Dieu est entré dans notre monde, il n'en est jamais sorti. Il est une force de résurrection qui nous est offerte. Dieu est entré dans notre monde en Jésus-Christ, il n'en est jamais sorti. C'est ce que l'on comprend à accueillir la réalité de la résurrection. Il est entré dans notre monde, il n'en est jamais sorti, et nous pouvons et nous devons rencontrer Dieu en toutes choses, puisqu'il habite sa création et ses créatures. Le père Varion faisait toute sa catéchèse aux laïcs en disant ceci: il faut toujours ajouter au nom de Jésus 6 qualificatifs. Sans ça, on ne parle pas du vrai Jésus. Ces 6 qualificatifs sont les suivantes. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Et s'il est vivant, il est présent. Et s'il est présent, il est agissant, il n'a pas pris sa retraite, il n'est pas endormi. Et il agit comment? Il agit en transformant. C'est un agent de transformation. Et il transforme comment? Il transforme en nous divinisant, en nous donnant une vie à tel point forte qu'elle est capable de vaincre la mort. On ne devrait jamais parler de Jésus sans toujours ajouter au bout de son nom ces 6 qualificatifs. Sans ça, on ne parle pas du vrai Jésus. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est présent. Il est agissant. Il est transformant. Il est divinisant. Dans un autre texte, le père Varion ajoute: il nous divinise en nous humanisant. Il ne fait pas de nous des anges, mais de belles créatures humaines, vivantes, habitées du souffle de l'esprit. On peut dire que notre vie spirituelle consiste à découvrir cette présence agissante du Seigneur dans notre vie. On peut dire que notre vie spirituelle consiste à rencontrer le vivant. La vie spirituelle en régime chrétien n'est pas une théorie, c'est pas une idéologie, c'est pas une question de raisonnement, c'est pas un système. C'est partir à la recherche d'un visage, à la rencontre d'une personne, Jésus-Christ. On peut s'interroger, mais comment rencontrer le vivant aujourd'hui, dans notre propre vie? Le récit des disciples d'Emmaüs est éclairant en ce sens. Vous connaissez ce récit, c'est un des plus beaux textes de toute l'Écriture, et peut-être même de toute la littérature au monde. Ils sont deux disciples déprimés qui retournent à la maison parce que leur espérance a été déçue. Et ils sont devant le fiasco de la vie de Jésus. Tout ce qu'ils espéraient est tombé en ruine lorsque on a mis Jésus à mort. Jésus a même manqué sa mort. Il est mort comme un vil bandit alors que les prophètes étaient lapidés. Alors les disciples d'Emmaüs, Cléophas et son épouse retournent à la maison, déçus, déprimés. Ce sont les premiers distants. On parle beaucoup aujourd'hui des distants, des gens qui prennent la distance vis-à-vis de l'Église. Les premiers, ce sont les disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem, ils quittent le noyau des premiers apôtres. Et en route, et c'est ça qui est consolant, Jésus prend l'initiative de les rejoindre. Et à travers une démarche qui est la démarche propre à Jésus-Christ, qui commence par une écoute longue, patiente, Jésus avec des questions malicieuses qui demande aux disciples d'Emmaüs: mais quel est votre problème? Problème qu'il connaît très bien. Il amène les disciples d'Emmaüs à naître à eux-mêmes à travers son écoute. Et en amenant les disciples d'Emmaüs à raconter leur histoire, Jésus entre dans leur intimité. Et il peut prendre la parole dans un deuxième temps pour situer la petite histoire des disciples d'Emmaüs dans la grande histoire, ouvrir les horizons, faire éclater leurs petits problèmes. Jésus prend la parole et à travers l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, il se présente aux disciples d'Emmaüs comme celui qui est capable de faire éclater la vie dans le creux même de la mort. Et vous le savez qu'à la fraction du pain, ils reconnaissent le ressuscité, le vivant. Et là, c'est un renversement total du tout au tout, hein, un grand virage ambulatoire, si on peut dire. Ils retournent à Jérusalem, de déprimés qu'ils étaient, et ils sont tout remplis d'une nouvelle vitalité qui les étonne eux-mêmes. Ils retournent à Jérusalem, se relèvent les manches pour aller bâtir l'église avec les onze. Ils sont transformés par la rencontre du vivant. La même chose se produira pour saint Paul, qui était un persécuteur et qui va devenir le porte-parole de Jésus à travers l'histoire. Puis vous avez toute la lignée de ceux et de celles qui témoignent à travers l'histoire qu'ils l'ont rencontré. Nous sommes, nous aussi, appelés à faire une expérience analogue à celle des disciples d'Emmaüs. Nous sommes appelés, tous, personnellement, à rencontrer le vivant, le ressuscité. Précisément parce qu'il est présent, qu'il est agissant, qu'il est transformant, qu'il est divinisant, et qu'il désire, plus qu'on puisse le désirer soi-même, qu'il désire se donner à rencontrer, qu'il désire nous vivifier, nous transformer, nous diviniser. Nous sommes appelés à refaire l'expérience des disciples d'Emmaüs et à rencontrer le vivant. Et ce vivant habite notre monde, et c'est ça qui est extraordinaire. Nous pouvons rencontrer Dieu dans notre monde. Hein, c'est à moi que vous le faites. C'est à moi, c'est moi que tu persécutes, Paul. Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Tout le devenir de la vie spirituelle consiste à reconnaître et à accueillir le vivant pour en être vivifié. Tout consiste dans notre vie spirituelle, quand on résume là, sa finalité, à ressusciter avec le Christ ressuscité, à vaincre toutes nos petites morts. Nous arrivons à ce qui est peut-être le plus intéressant de la vie spirituelle, ce que je viens d'évoquer de la trajectoire historique où le Christ ressuscité là, se propage comme une bonne nouvelle, non seulement comme des paroles, mais comme une réalité agissante. Il y a des personnes de nos ancêtres, des personnes que l'on connaît autour de nous, qui ont rencontré le Christ ressuscité, qui ont été transformées, qui portent dans le fond du cœur une expérience qui se traduit en une espérance. Et l'espérance des chrétiens, vous le savez, c'est pas un « j'aimerais bien que », c'est une certitude que la mort est vaincue. Et qu'au bout de notre vie, à l'horizon de notre vie, ce n'est pas le néant, mais c'est une vie meilleure, une vie en plénitude qui nous attend. Il est intéressant, au terme là, de cette longue lignée historique des témoins, de comprendre que la résurrection dans notre vie se découvre au quotidien. J'aime beaucoup répéter, attendez pas à votre mort pour ressusciter. Bon, ça va être trop difficile si vous n'êtes pas pratiqué. La résurrection du Christ, elle nous est déjà donnée. Nous sommes déjà en train de ressusciter. Et les petites difficultés que nous avons, de tous ordres, que ce soit des échecs, que ce soit des difficultés psychologiques, que ce soit des difficultés relationnelles, que ce soit des épreuves de santé, des maladies, de la solitude, des séparations, du chômage. Ces difficultés-là sont pour nous des petites morts, à notre mesure, occasion en or de faire l'expérience et de faire l'apprentissage de notre propre résurrection dans le quotidien. Ça nous est donné, pour ainsi dire, pour nous exercer à ressusciter. C'est presque devenu un proverbe. Hein? On meurt comme on vit. Voulez-vous savoir comment vous allez mourir? C'est très facile. Regardez comment vous vous comportez dans vos difficultés. Il est intéressant, il est précieux d'avoir une sorte de scénario. C'est pas morbide. Une sorte de scénario pour savoir comment j'aimerais mourir, pour pouvoir me pratiquer tout au long de mon quotidien. J'ai un scénario que j'ai trouvé dans un livre qui est bouleversant pour moi. Je sais comment j'aimerais mourir. En faisant une recherche sur l'humour et la vie spirituelle, j'ai découvert dans un livre un trait d'humour qui est extraordinaire et il semble que ça soit historique. J'ai découvert dans d'autres livres le récit de ce que je vais vous conter. Ça s'est passé au cours de la Révolution française. Vous savez qu'à la Révolution française, on guillotinait allègrement. Même le docteur Guillotin, qui a inventé la guillotine, est passé sous son invention. Il a été guillotiné lui aussi. En tout cas, il y avait un monsieur qui s'appelait le duc Louis de Biron. On a son nom, qui était destiné à être guillotiné. Et comme il y avait beaucoup de monde, il était en ligne, en attendant de monter sur l'échafaud. Et déjà, là, c'est divin. Il s'était apporté un bon livre pour passer son attente, et il lisait un bon livre, il était intéressé dans son livre. Et au fur et à mesure, il se poussait là, pour entrer. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui a touché l'épaule, c'était le bourreau, qui lui disait, ben c'est à ton tour. Et là, c'est ça que j'ai trouvé divin. Il a pris son livre, il a marqué sa page en tournant le coin de la page, puis il est monté sur l'échafaud. Ça, là, c'est se moquer de la mort. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que, OK, je vais mourir, vous allez me couper le cou, mais je vais continuer mon livre après. C'est bouleversant d'aller à la mort, avec cette espérance, cette certitude que la mort n'est pas la fin, c'est le passage et le début d'une vie meilleure, d'une autre vie qui nous est donnée. Cet événement qui est vraiment extraordinaire me sert de scénario. J'aimerais mourir comme ça en lisant un bon livre, puis en ayant cette espérance tranquille, hein, que mon livre, je vais continuer à le lire après. Quand j'ai des difficultés, ce scénario m'aide à vivre mes difficultés. Si je veux mourir comme ça, il faut que je m'exerce dans chacun de mes problèmes, dans chacune de mes difficultés. Réaliser la résurrection dans le quotidien. Il y a un texte d'un psychiatre qui nous dit qu'il a découvert la résurrection dans son quotidien. Je vous lis ce texte-là, c'est un laïc, le docteur Yves Prigent. Écoutez ça, ça parle. Ce texte parle par lui-même. « Je le dis sans complaisance, mais aussi sans pudeur et sans manière. La résurrection, j'en ai fait mon affaire. » La résurrection de Jésus est le modèle accompli, épuré, à la ligne historique parfaite de toutes les résurrections, minimes et humbles, ou plus grandes et plus évidentes, que je vois se produire autour de moi chaque jour et aussi dans ma vie. Il y a résurrection pour moi chaque fois qu'une perte entraîne un gain. Un manque, un plus-être, un vide, une plénitude, un silence, une parole vive, une peine, une vie plus profonde. Vis-à-vis de la résurrection, ma démarche fut celle-ci. Je la connaissais en chrétien, entre guillemets, normalement instruit, comme le moment le plus poétiquement baroque de l'Évangile, l'épisode d'autant plus estomacant que saint Paul nous dit que tout repose sur cette histoire époustouflante. Puis vint le moment où, dans ma vie autour de moi, je constatais des mini et des maxi-résurrections comme des faits d'expérience quasi-journalière, comme une manière privilégiée de la vie de se développer, de s'affirmer, autre, de se renouveler. Je revins alors à l'Évangile et je m'aperçus que ces récits de la résurrection, loin d'être des passages gênants, et terriblement surnaturel, pour ne pas dire horriblement magique, était ce qui me rendait compte de ces résurgences de la vie en plénitude après le passage par un manque, un vide, une béance, une absence, un tombeau. La résurrection, c'est le noyau atomique de notre vie. Et s'il faut ajouter au nom de Jésus les 6 qualificatifs que vous connaissez, il faut les ajouter aussi au bout de notre nom. Je suis ressuscité, je suis vivant pour tout le temps. Je suis présent, je suis agissant, je suis transformant, je suis divinisant.
Vous venez d'entendre Sous l'Olivier avec Jean-Guy Saint-Arnon, jésuite, prédicateur et auteur.